pense souvent au sport comme à l'activité saine par excellence, un vrai pilier pour notre bien-être. Mais que se passe-t-il quand cette passion devient une sorte de prison? Aujourd'hui, on va explorer la bigorexie, donc l'addiction au sport, en s'appuyant sur un article vraiment éclairant de Digital Wellness. L'idée, c'est de comprendre ce trouble, qui est quand même reconnu par l'OMS depuis 2011, et de voir ce qu'il révèle sur cette frontière parfois très mince entre la santé et l'obsession.
Oui, et c'est un paradoxe qui est assez fascinant. La société valorise énormément la performance, la discipline, le dépassement de soi. Ce sont les qualités d'un champion, quoi. Mais ces mêmes qualités, quand elles sont poussées à l'extrême, elles deviennent les symptômes d'une dépendance. Et c'est une dépendance aussi destructrice que l'addiction aux jeux vidéo ou même au travail. La frontière est vraiment floue.
Alors, pour rendre ça concret, il y a le témoignage de T, un ancien footballeur de 32 ans, qui m'a vraiment marqué. Il raconte être tombé dans une spirale infernale après sa carrière. C'était, je cite, 4 heures par jour à la salle, 7 jours sur 7.
C'est énorme.
Énorme. Il a fini par perdre son travail, sa compagne. Pour lui, le sport, c'était plus du plaisir, c'était une fuite.
Et ce que T décrit en fait, c'est le piège parfait du circuit de la récompense dans notre cerveau. Quand on fait du sport de manière très intense, on a ce cocktail chimique incroyable, les endorphines, la dopamine, c'est une sensation de puissance, de bien-être.
D'accord.
Mais le problème, c'est quand on arrête. Là, c'est la chute libre. Le cerveau est privé de sa dose et il la réclame. On tombe dans un état de manque bien réel, irritabilité, anxiété. C'est pas juste dans la tête.
Et ce qui est fou, c'est que de l'extérieur, au début, son engagement a dû paraître admirable. Comment est-ce qu'on fait la différence alors entre un athlète passionné et quelqu'un qui a vraiment basculé?
C'est toute la difficulté du diagnostic. Les psychiatres s'appuient sur un manuel, le DSM-5, qui est un peu la bible des troubles mentaux. Et ce manuel liste des critères très précis.
Par exemple?
Par exemple, le fait de continuer malgré les blessures ou de sacrifier toute sa vie sociale et professionnelle. On voit bien le lien avec l'histoire de T. En gros, le sport passe de partie de la vie à toute la vie.
Donc des comportements qu'on applaudirait chez un sportif de haut niveau, comme l'abnégation, repousser ses limites, deviennent ici des signaux d'alarme clinique. C'est là que tout se joue.
Exactement. Et pour les athlètes professionnels, c'est un vrai casse-tête. Leur métier, c'est de flirter en permanence avec cette ligne rouge. L'addiction est souvent masquée par les exigences de la performance.
Le témoignage de T montre aussi les conséquences au-delà de l'isolement. Il parle de fractures de fatigue, d'épuisement, et il mentionne le moment où il a failli basculer vers les stéroïdes. C'est souvent la prochaine étape, hein.
Oui, tout à fait. L'addiction au sport peut s'accompagner d'autres obsessions. L'orthorexie, par exemple, l'obsession de manger parfaitement, c'est très fréquent.
Ah oui.
Et quand les résultats ne suivent plus, le dopage devient une tentation pour maintenir cette illusion de contrôle et de performance. C'est une fuite qui en entraîne une autre.
Ça donne l'impression d'être dans une impasse. Pourtant, Tété a réussi à s'en sortir. Comment on remonte la pente? L'article parle d'une approche pluridisciplinaire.
Oui, il n'y a pas de solution magique, c'est clair. Il faut un suivi médical pour le corps, un suivi nutritionnel et surtout un suivi psychologique. On utilise souvent ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC.
Et ces TCC, c'est quoi concrètement? On réapprend à penser différemment son rapport au sport?
C'est ça. Ces thérapies aident à identifier les pensées automatiques du type « si je ne m'entraîne pas aujourd'hui, je suis un raté » et à les déconstruire pour les remplacer par des schémas plus sains. Et là, il y a une différence majeure avec d'autres addictions. La psychologue Avital Denan le dit très bien. L'objectif n'est pas l'abstinence totale, mais un retour à une pratique équilibrée.
On n'arrête pas le sport? Aujourd'hui, je fais du sport pour le plaisir, pas pour fuir mes problèmes. Tout est là, dans cette intention. Le sport doit rester un outil pour la santé, et pas devenir la maladie elle-même.
Et ça nous laisse avec une question plus large, je trouve. Si une activité qui est perçue comme universellement positive peut devenir une addiction, qu'est-ce que ça révèle de notre quête collective de performance, de perfection? Le véritable enjeu, ce n'est peut-être pas d'optimiser son corps à tout prix, mais simplement d'apprendre à l'écouter.